Via l'Internet. On est toujours content de savoir, d'avoir de vos nouvelles aussi. Vous pouvez nous écrire, certainement. Il y a des gens qui nous envoient régulièrement des courriels, ils posent des questions sur les Écritures ou sur notre Église. Donc, ça, c'est, on veut prendre le temps de répondre, absolument. On veut, ce matin, certainement remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, mais le remercier aussi pour qu'on peut se fier sur lui, on peut se jeter dans ses bras lorsqu'il y a des tragédies comme on vient de connaître en Haïti. D'ailleurs, ce matin, je viens d'apprendre qu'il y a une sœur de notre église dont la famille en Haïti a tout perdu. D'autres comme ça, et il y en a peut-être même d'autres qu'on n'a pas entendu parler encore dans l'église. On a des frères et sœurs haïtiens à l'Assemblée. On veut certainement prier pour vous et pour vos familles. C'est vraiment un temps tragique et difficile. Je sais que Diane Deslongchamps, qui est là avec l'équipe La Bible parle, et plusieurs chrétiens de notre association d'église aussi sont là présentement. Ils nous gardent informés à travers le Facebook. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant d'un peu. Elle était directement là, donc elle pouvait nous parler de cet ouragan, cette tempête et des dégâts. Ils préparent d'ailleurs un autre voyage en janvier avec des chrétiens de l'association et d'autres. Ma petite fille, d'ailleurs, doit y aller. Et donc, on veut vraiment prier pour ça, prier pour des chrétiens qui sont là aussi, plusieurs chrétiens, et prier que le Seigneur puisse vraiment mettre sa main dans toute cette situation tragique, les consoler et les fortifier, les aider à remettre ça sur pied. Prenons le temps, juste un moment, pour prier. Seigneur, on veut te remercier que nous pouvons toujours nous tourner vers toi. Dans les bons moments, des moments de joie et de bénédiction, comme dans les moments difficiles où nous passons à travers des moments de deuil, de perte, de douleur et de tragédie, comme nos frères et sœurs viennent de vivre et de connaître en Haïti. On te prie, Seigneur, pour l'Haïti. Ils ont été éprouvés sévèrement dans les dernières années, depuis plusieurs années d'ailleurs, et on te prie que tu puisses mettre un baume sur ces souffrances, que tu puisses lever toute une armée de personnes qui iront vraiment s'investir là-bas pour venir en aide à ce beau peuple, que tu puisses les aider, Seigneur, les secourir et nous guider comment on peut venir en aide et vraiment être un secours et un soutien, un grand encouragement pour eux. Comme Église aussi, nous voulons faire notre part comme enfants de Dieu. Nous voulons nous mouiller, nous voulons vraiment nous impliquer. Alors guide-nous dans les prochains mois, voir comment on pourra aider. Et on te prie pour eux, pour ceux qui sont déjà sur le site et qui aident. On te prie que tu puisses les encourager, Seigneur. Et ce matin, alors qu'on ouvre les Écritures saintes, on sait que tu veux parler à nos cœurs, tu veux nous édifier, nous encourager, tu veux nous lancer des défis, nous exhorter à grandir en toi. Alors on te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse parler à nos cœurs ce matin, alors qu'on ouvre les Écritures saintes, ta révélation, ta parole, la parole de Dieu. Alors parle à nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Certaines églises, vous savez, on en connaît moins ici au Québec, mais certaines églises aux États-Unis, un peu partout dans le monde, vont avoir une école qui est annexée au bâtiment de l'église et ce sera une école chrétienne où on veut enseigner évidemment les matières comme la mathématique, les langues et tout ça. Et en même temps, on veut le faire dans une perspective chrétienne basée avec les Écritures saintes. Il y a une église comme ça aux États-Unis qui ont bâti toute une école assez dynamique, une école chrétienne. Et puis, ils ont une école, ils ont un primaire, puis ils ont un secondaire. Et le secondaire a une équipe de football. Évidemment, c'est pas des professionnels, c'est une équipe de football du secondaire. Un jour, un des jeunes qui allait jouer au football, faisait partie de l'équipe de football, a invité le pasteur de jeunesse de l'église à venir voir l'une des pratiques. Alors, le pasteur de jeunesse a accepté, il dit, certainement, je vais aller voir ça. Et donc, le pasteur de jeunesse s'est rendu sur place, sur le terrain de football, Puis quand il est arrivé, il y avait toute la gang, les joueurs qui arrivaient, puis tout ça, puis il était sur le terrain. Et là, il y a un monsieur qui arrive avec un gros sac, avec à peu près 6 ballons de football dans le sac. Puis il arrive avec le gros sac, puis il vide le sac comme ça sur le terrain. Puis il reprend le sac, puis il s'en va s'asseoir. T'sais. Alors là, les gars, les jeunes commencent à jouer avec le ballon. Alors là, le pasteur jeunesse regarde ça, ça courait partout, tout ça, sur le terrain, puis ça. Alors là, le pasteur jeunesse va voir l'autre monsieur, puis il dit, quand est-ce que ça va commencer la pratique? Je suis venu pour voir la pratique. Alors, quand est-ce que ça va commencer? Ben, il dit, la pratique a déjà commencé. Ça fait 10 minutes que c'est commencé. Il dit, ah oui, ça fait 10 minutes que la pratique a commencé. Il dit, le coach. Ah, il dit, c'est moi le coach. Ah, c'est vous le coach. OK. Avez-vous un petit peu d'expérience comme coach? Alors, le gars, il dit, non. Il dit, écoute, moi, je viens ici avec un sac de ballon de football, là, puis il dit, je lance ça sur le terrain, puis moi, je m'en vais m'asseoir en arrière, là, puis les autres, ils jouent pendant une heure. T'sais. Ah oui, OK. Alors, c'est quoi qui va se passer? Ben, il dit, ils vont jouer, là, puis à peu près dans une heure, là, tu sais, moi, je ramasse les ballons, puis je m'en vais, on s'en va, tout le monde s'en va. Ah oui? OK. Alors, le pasteur jeunesse avait un peu d'expérience de football, tout ça, donc il avait déjà joué, puis il embarque sur le terrain, puis ça va voir les jeunes. Alors, les jeunes se regroupaient tous, là, ils étaient tous là ensemble, puis tu avais le coach, le corps arrière qui était là, il dit, OK. Ah, il dit, j'en veux un là, puis j'en veux un qui s'en va là, j'en veux un autre qui s'en va là, j'en veux un autre qui s'en va là, là. Puis moi, je vais lancer le ballon. Fait que le pasteur jeunesse regarde ça, il dit, OK. Il dit, avez-vous des jeux? La stratégie des jeux, puis ça? Ah, il dit, on a juste deux jeux. Deux jeux, OK. Ça marche? C'est quoi? Ben, il dit, le premier jeu, il dit, on appelle ça les œufs brouillés. Les œufs brouillés. Il dit, oui. Il dit, les œufs brouillés. OK. Fait que c'est quoi ça, les œufs brouillés? Ben, il dit, le corps arrière, il est là, puis on est tous placés sur la ligne. Puis quand c'est le temps, il dit, les œufs brouillés! Puis là, tout le monde, on part à courir, puis celui qui est libre, on y lance le ballon. OK. Bon, fait que t'as un jeu de lancer. OK, les œufs brouillés. Ça marche. Ben, il dit, c'est quoi le deuxième? Ah, il dit, le deuxième s'appelle ta maman. Ta maman. OK, c'est quoi ça? Ben, il dit, ta maman, il dit pas compliqué, il dit, on est tous là, puis quand le corps arrière, il dit, ta maman! Là, il dit, tous les gars en arrière partent à courir, puis il y en a un qui ramasse le ballon, puis on rentre dans le tas de bord jusqu'à temps qu'il y en a un qui crie, maman! Ah, oui. OK, ça, c'est vos deux jeux. Ouais, ben, c'est deux jeux. OK. Fait que le pasteur jeunesse, il demande, il dit, est-ce que ça marche? Fait que là, les gars, ils regardent toute la gang, l'équipe au complet était là, ils regardent la terre. Ben, pas vraiment, tu sais. OK, avez-vous gagné une game? Ben, dans le fond, il va être bien honnête avec toi. Ouais, il dit, ça fait 5 ans qu'on joue et on n'a jamais gagné une seule game. Wow! Fait que là, l'autre gars, le coach, voit le monsieur en train de parler, le pasteur jeunesse en train de parler aux gens. Fait qu'il s'en vient avec son sac et il dit, tu poses bien des questions, toi, t'as l'air de reconnaître ça. Ah, il dit, ouais, t'as déjà joué? Il dit, oui, ah, ben, tiens, veux le sac, c'est toi maintenant le coach, salut. Là, il s'en va. Fait que là, le pasteur jeunesse, il dit, OK, fait qu'il prend ça en main, prend l'équipe en main, commence à les entraîner, puis tout ça, oh, bon sang, c'était plus pareil, là. Là, il commence à les entraîner, puis toute la gymnastique, l'entraînement, des push-ups, puis toute une discipline, etc., des jeux, des stratégies, puis, wow! Et là, c'était pas la même game pantoute. Fait qu'alors là, ils commencent la saison, puis sont rendus à la deuxième game. Ils ont perdu la première, ils sont rendus à la deuxième game, deuxième match. Et là, ils sont rendus juste à la mi-temps, puis ils vont commencer la deuxième période du match. Et pour la première fois en 5 ans, ils mènent. Alors les gars, mènent, ils sont tellement contents, ils sont fous. Et là, ça court sur le terrain, puis tout. Ils pensent, pour la première fois, hey, ça se peut qu'on gagne. On est en train de mener. Alors là, les gars étaient tous excités, puis ça, puis ça sautait un par-dessus l'autre, puis ils étaient tous contents, puis là, la game commençait. Ben, ils étaient tous... Et là, tranquillement, il y a quelque chose qui s'est passé. Les joueurs ont changé d'attitude. Parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'avance, puis que c'était gagné cette affaire-là déjà, là, c'est sûr qu'ils allaient gagner, ils ont commencé à jouer à la défensive. Ils ont commencé à avoir peur. Par exemple, le corps arrière, ne faisait plus de lancer, même s'il y avait des joueurs qui étaient seuls de l'autre côté, dans le champ. Ils étaient tous seuls. Il n'y aurait plus de lancer, puis c'était touchdown. Pantoute. Ils avaient peur, ils ne faisaient plus de lancer, ils ne prenaient plus de risques. Et tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils lançaient le ballon, puis là, ils avaient vraiment peur. L'atmosphère a complètement changé. Parce que vois-tu, il y a une grosse différence. Jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. Grosse différence. D'ailleurs, c'est vrai pour tous les sports. Prenons l'équipe des Canadiens. Il y a quelques années, Régent Tremblay commentait un match des Canadiens. Voici ce qu'il a dit. Le Canadien a joué pour gagner contre les Devils du New Jersey et les Rangers de New York en fin de semaine dernière. Il a joué pour ne pas perdre contre les Panthers de la Floride et les Lightning de Tampa Bay mardi et hier. Il y a une différence entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. Laissez-moi vous poser une question ce matin. Par rapport à ta vie chrétienne, comment mènes-tu ta vie chrétienne? Mènes-tu ta vie chrétienne pour gagner ou pour ne pas perdre? Laissez-moi tourner avec vous dans 1 Corinthiens 9, où nous verrons comment mener notre vie chrétienne pour gagner. On va lire une section dans 1 Corinthiens 9, verset 24, si vous voulez bien, jusqu'au verset 27. C'est un long chapitre, on va se concentrer uniquement sur ces quelques versets. Je vais vous résumer plus tard ce qui se passe dans tout le chapitre finalement. Moi, ça fonctionne pas, peut-être si quelqu'un peut faire avancer la diapo. Alors, 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que les concourants dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours. Mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Le message de Paul ici, dans tout le chapitre en fait, est le suivant. Courez de manière à remporter le prix. Cours de manière à le remporter. En d'autres mots, cours pour gagner. Cours pour gagner, ça fait toute la différence. Alors, il parle de quoi? Il parle de la vie chrétienne. Paul compare la vie chrétienne à une course. Et voici ce qu'il nous dit. Cours ta vie chrétienne de manière à remporter le prix. Le prix, ce dont il s'agit dans le contexte, ce sont les récompenses qui vont nous attendre au ciel et que Dieu attend juste de nous donner. Il veut nous bénir dans l'éternité. Alors, il est dit ici, tout ce que vous allez faire ici avec un cœur qui est par amour, tout ce que vous faites par amour et tout ça, ce que vous allez faire pour le Seigneur, tout ce que tu fais, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail, dans ton église, tout ce que tu fais, tu es en train de t'amasser, dit Jésus dans Matthieu 6, des trésors au ciel. Et ce sont des récompenses et Dieu a hâte de nous donner, de nous bénir, alors qu'on va rentrer dans l'éternité et on pourra être avec lui dans la joie pour toujours. Et alors, Paul est en train de dire, cours ta vie chrétienne de manière à remporter le prix, de manière à t'amasser des trésors au ciel. Cours pour gagner. Et vous savez, la ville de Corinthe, c'était très approprié dans le contexte de la ville de Corinthe. La ville de Corinthe était réputée pour ses grands jeux, des jeux isthmiques. C'était des jeux très, très populaires. Des milliers de personnes venaient à Corinthe pour les jeux. C'était le plus gros jeu qu'il y avait dans l'Antiquité après les Jeux olympiques. les Olympiades. Donc, c'était très gros. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu des Jeux. On avait ça la première et la troisième année de chaque Olympiade. Et les Jeux ont eu lieu en 49, juste avant que Paul arrive à Corinthe pour implanter une église. Les Jeux ont eu lieu aussi en 51, pendant qu'il était là en train d'implanter une église. Et il y avait des Jeux dans la même période où les Corinthiens auraient reçu la lettre aux Corinthiens. Donc, en d'autres mots, les Corinthiens seraient en train de lire la lettre aux Corinthiens pendant qu'ils avaient toute cette atmosphère festive des Jeux esmiques dans le temps. Alors imaginez, les archéologues ont excavé des commerces et des ateliers de 4 par 2 mètres et demi. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que pendant les Jeux, il y avait des commerces qui remplissaient ça d'inventaire. C'était plein de stocks pour vendre. On faisait de l'argent. C'était toute une source d'économie incroyable, de revenus d'économie incroyable dans la période des Jeux. C'est à peu près comme le Rockfest à Montebello. Imagine-toi donc, tu as une ville, tu as des milliers de personnes qui viennent dans la ville. C'est très payant pour des gens qui demeurent là. Et Corinthe, c'était pas différent, c'était payant. Il y en a qui faisaient leur année avec cette période-là des Jeux. On plaçait des tentes un peu partout dans la ville pour que tu puisses rester là pendant les Jeux. On louait ça sur des terrains. Et les archéologues ont trouvé des genres de commerces qui ont été fabriqués d'à peu près 4 mètres par 2,5 et au-dessus duquel se trouvait une place pour dormir. Et on pense, justement, quand tu regardes dans Acte 18, Aquilas et Priscille ont dormi là et ils fabriquaient des tentes. Et Paul est venu joindre pendant qu'il a implanté l'Église et il a commencé à travailler, à fabriquer des tentes avec, justement, le couple. Et c'était là, dans une de ces petits commerces où il y avait ce lieu-là en haut pour dormir. Donc, c'était très gros. Le stade à Corinthe était aussi gros que le Centre Bell. Il y avait 20 000 places, 20 000 spectateurs pouvaient se rendre là. Et plusieurs disciplines, plusieurs compétitions. On parle de boxe, de course et tout ça. Alors, imaginez, les Corinthiens sont en train de lire le chapitre 9 et Paul est en train de parler des Jeux. En même temps, ça se déroule, à peu près, probablement en même temps, ça se déroule. En tout cas, à peu de choses près. Et là, les Corinthiens sont là, les chrétiens de Corinthe, puis ils disent, « Hey, ils parlent de nos Jeux, ils parlent des Jeux, là. » Alors, ces Corinthiens-là auraient très bien compris les allusions et le message de Paul qui se sert de cette métaphore de jeu, de sport et d'athlète. Et Paul est en train de nous dire, « Écoutez, vous connaissez les Jeux. Vous savez... Alors, voici le message que je vous donne tiré de ces Jeux-là. Il dit, courez. Courez votre vie chrétienne. Courez pour gagner. Cours pour gagner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est rendu au chapitre 9. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de division de chapitre puis des versets. Ça a été installé plus tard pour nous aider à nous repérer dans la Bible. Alors, les chrétiens, les premiers chrétiens, les chrétiens de Corinthe, tout ça, lisent ça comme une lettre en continu. Alors là, ils viennent de finir le chapitre 8 qui parle de la liberté chrétienne, de faire un bon usage de notre liberté, de ne pas abuser de la liberté. Et oui, on a le droit, on est libre maintenant en étant Jésus, mais sur les zones grises, de ne pas abuser des choses qui sont moins claires et moins précises, qui ne sont pas spécifiées comme restrictifs ou tout ça. Il y a des choses claires dans les Écritures. En même temps, il y a d'autres choses. Ce sont des zones grises. Et Paul, il dit, n'abusez pas. Mais faites attention. Prenez soin les uns des autres. Agissez avec humilité les uns avec les autres. Soyez des serviteurs. Alors, il vient d'enseigner pendant 8 chapitres. Et là, il arrête. Il fait une pause. Il arrête. Time out. Et il leur dit, regardez, je vous ai montré c'est quoi la vie chrétienne. Jusqu'ici, là, on a passé 9 chapitres à vous montrer ce que c'est que la vie chrétienne. Il a parlé de différents sujets, différents défis, tout ça, et plusieurs exhortations à travers ces chapitres-là. Maintenant, vous avez besoin de vous arrêter et prendre cette décision qui est vraiment importante. Prenez la décision. Vous avez besoin de décider aujourd'hui, de courir, de prendre ça au sérieux, la parole de Dieu, et mettre ça en pratique dans votre vie. Et vous avez besoin de courir, de mener votre vie chrétienne comme une course et la mener comme... ces coureurs qui courent pour gagner. C'est ça que tu as besoin de faire. C'est ça que Paul est en train de dire. Il donne ce message-là qui arrive subitement au chapitre 9 pour les exhorter à mener leur vie chrétienne et à prendre ça très au sérieux, comme une course. et de courir comme pour gagner. Mais comment tu fais ça? Comment on gagne la course? Mais premièrement, pour gagner la course, j'ai besoin de vouloir gagner. J'ai besoin de cette attitude-là, cette décision-là. Ça commence avec une décision. Puis cette décision-là, il faut s'arrêter ce matin et se poser la question, est-ce que je suis en train de mener ma vie chrétienne comme si je veux gagner ou si je ne veux pas perdre? Voici, on a besoin de la poser, cette question-là, ensemble. Est-ce que sérieusement devant Dieu et avec humilité, moi, je suis en train de mener ma vie chrétienne pour gagner? Plutôt que un peu me laisser aller, tout ça, puis moi, j'ai mon billet d'entrée au ciel et tout ça, tout est correct, là, puis bon, là, je suis correct. Si je peux juste me rendre, là, et entrer dans l'éternité, ça va aller. Et Paul, il dit, non, il dit, écoute, cours pour gagner. Jouer pour gagner signifie que je vais être à l'offensive. Je vais être proactif. J'attends pas. Je veux pas être passif. Je veux être proactif dans ma vie chrétienne, dans mon implication et avec ma famille. Je veux être proactif. Je veux pas me laisser aller. Jouer pour gagner signifie tu vas prendre des risques. Tu vas faire un pas de foi. Ça va peut-être demander que tu te sors de ta zone de confort. Des fois, je me rappelle un exemple que je donne souvent, c'est cette fille, justement, à La Valesse, qui osait pas se mouiller dans l'école du dimanche, dans le TEE, parce qu'elle avait peur. Et tranquillement, elle a trouvé du courage, elle a fait un pas de foi, puis elle a embarqué, puis on a découvert une fille qui avait des talents extraordinaires. Elle-même, elle dit, je me reconnais pas. Vois-tu, tu as besoin de prendre un pas de foi, de sortir de ta zone de confort, et d'avancer dans ta vie chrétienne, et tu vas voir Dieu va te bénir, il va t'emmener là où il veut t'emmener, et tu vas devenir ce qu'il a toujours voulu que tu deviennes, que tu vas grandir dans ta foi. Mais il faut que tu prennes des risques pour ça. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Jouer pour ne pas perdre signifie que tu commences à jouer de manière défensive. Tu as peur de prendre des risques. Tu ne veux pas prendre des risques. Tu restes dans ta zone. Tu ne veux pas trop t'impliquer, te mouiller, tout ça. Tu fais attention. C'est comme se dire, ben là, je suis correct, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, c'est correct, j'en veux pas plus. Alors Paul te dit, non, écoute, je veux que tu cours comme si tu étais cette personne-là qui franchit la ligne puis t'es en train de gagner. Et lui, veux-tu gagner? Regarde les gars qui courent, là, mon ami, le visage, les femmes qui courent, là, sont là, puis quand ça court pour gagner, tu regardes les Olympiades, les Olympiques, j'avais une photo, mais je sais pas pourquoi, là, je suis pas capable de l'emmener, là, mais... avance donc, est-ce qu'il y a d'avancer, Jean, ça va à peine, Jean-Louis, là. Non, ça fonctionne pas? Oui, elle est là? OK, hey, est-ce qu'il veut gagner, ce gars-là? Hein, t'as-tu l'air d'un gars qui veut... Non, il est pas avec son cappuccino, là. Là, lui, là, il veut gagner. Bon, donc, le prochain aussi, je pense que c'est le prochain qui... Ah, il est peut-être pas collé, c'est correct, là, c'est là. Correct, t'es-tu... Hein? Veux-tu gagner, ce gars-là? Il dit, mène ta vie chrétienne. Paul est en train de dire, mène ta vie chrétienne comme celui-là, là. Mène ta vie chrétienne comme ça. Cours ta vie chrétienne, non pour ne pas perdre, mais pour gagner. Ça fait une grosse différence. Sors de ta zone de confort. Si tu mènes ta vie chrétienne pour ne pas perdre, tu ne seras pas proactif. Alors, Paul dit, écoute, moi je veux que tu cours, je veux que tu gagnes, je veux que tu cours comme ça. Là. Je veux te voir courir pour gagner. Alors, pour gagner ta course, tu as besoin de vouloir gagner. Et ce matin, on a besoin vraiment de faire de l'introspection, s'arrêter devant le Seigneur humblement, me dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de mener ma vie chrétienne pour gagner? Où est-ce que je mène ma vie chrétienne juste pour ne pas perdre? Deuxièmement, pour gagner la course de la vie chrétienne, on a besoin de concentration. Évidemment, il faut que tu sois focus. Il faut que tu gardes le focus. Tu te concentres. On frappe ce qu'on vise. C'est vrai? On frappe ce qu'on vise. Paul nous dit, je veux te voir courir avec l'intention de gagner. Mais tu as besoin de garder toujours ça en tête. Chaque jour, on a besoin, parce que sans ça, on va tranquillement oublier ça. On a besoin toujours de nous rappeler que nous avons été mis à part, nous avons été sanctifiés. Si nous sommes en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, tu as été sanctifié, qui signifie être mis à part. Et Dieu t'a mis à part. Il t'a donné des dons et des talents pour que tu puisses accomplir une mission. Et le Seigneur veut que tu deviennes tout ce qu'il a à cœur que tu deviennes. Et il veut te voir grandir et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Il veut te voir t'améliorer comme mari, comme épouse, comme employé, comme employeur, comme gens d'affaires ou comme employé. Il veut que tu deviennes de meilleur en meilleur pour sa gloire. Mais tu as besoin de constamment te rappeler chaque jour, et c'est ça que ça veut dire, garder le focus, se concentrer. On a besoin de se rappeler tous les jours que nous avons été appelés. Rappelez-vous ce que Dieu dit dans Éphésiens 2. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Il a préparé des œuvres d'avance afin qu'on puisse les accomplir pour sa gloire. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi, pas pour ton voisin, pour toi. Tu as reçu des talents, des ressources, des dons. Dieu t'a donné plein de choses pour que tu puisses t'en servir pour sa gloire et faire avancer son œuvre. Donc, on a besoin chaque jour de ne pas oublier que nous avons été sanctifiés. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes un enfant de Dieu. Et Jésus nous attend pour nous bénir dans l'éternité et nous remettre toutes les récompenses, les bénédictions de notre vie ici chrétienne qu'on aura menée ici sur terre. Donc, pour gagner la course de la vie chrétienne, on a besoin de se concentrer. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour moi. Tu es capable de dire ça? Dieu a un plan pour moi. Dis-le très fort, parce qu'il y en a qui ne croient pas des fois. Dis-le très fort. Dieu a un plan pour moi. Maintenant, dis-le à ton voisin. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Est-ce qu'on entend des amen? Absolument. Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour moi. Et on a besoin chaque jour de garder le focus que si Dieu choisit dans sa souveraineté, sa sagesse de nous garder ici sur terre, c'est que nous avons un plan à réaliser pour sa gloire. Maintenant, le christianisme, ce n'est pas un événement qui s'est passé seulement dans le passé, où j'ai été sauvé, puis c'est fini. Absolument pas. Dieu est en train d'accomplir une œuvre maintenant dans ta vie, et ça continue. Alors, le salut, ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé dans le passé, ça continue à se réaliser chaque jour. Et je veux que tu te concentres là-dessus, dit l'apôtre Paul. C'est ce que ça prend du focus, il faut se concentrer, il faut se rappeler chaque jour. Wow, je m'en vais travailler ce matin, je vais m'occuper des enfants aujourd'hui, je veux me rappeler que je suis un enfant de Dieu, et Dieu m'a laissé ici, que je sois un témoignage puissant pour sa gloire. Alors, quand tu t'en vas travailler, mardi, si vous avez congé demain, mardi, tu t'en vas travailler, rappelle-toi avant de partir, Seigneur, je suis un missionnaire dans la compagnie où je m'en vais travailler, et je veux faire un bon travail qui va t'honorer. Je veux être un bon témoignage. Alors, c'est centrer sa vie chaque jour autour de Jésus-Christ et te rappeler qu'il a un plan pour toi. Est-ce que ma vie, c'est ma job, c'est ma carrière, est-ce que c'est ma famille ou est-ce que c'est d'abord et avant tout le Seigneur Jésus? Est-ce que Paul est en train de dire, vois-tu, tu veux mener ta vie chrétienne pour gagner, tu as besoin de placer Jésus à la première place, au centre de ta vie, partout. Tout ce que tu vas toucher, même quand tu vas au magasin. Savez-vous, il y a des gens qui vont au magasin, puis pas juste au magasin, on parle de restaurant. Maintenant, tu t'en vas au restaurant, puis tu donnes des pourboires. Es-tu cheap quand tu donnes des pourboires? Comment t'es quand tu donnes des pourboires? Est-ce que tu donnes juste, tu sais, ah, oh, tu es grand, je m'en vais, je ne donnerai pas grand-chose. Oh, je ne suis pas satisfait de servir, je ne donnerai rien. Réalises-tu que tu es un enfant de Dieu? Imagine-toi si la personne sait que tu es un enfant de Dieu. Moi, je crois et je suis convaincu de ça, les chrétiens devraient être les plus grands tipeurs. Comment tu dirais ça en français? Les plus généreux dans les pourboires. Gâte la personne. 15% donne 16 du 7. Donne ça un petit peu plus. Pour que les personnes disent, wow, hey, parle-moi de ça. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait des chrétiens qui allaient dans un buffet. C'est un buffet chinois. Puis ils étaient après chaque service, ils allaient le dimanche matin, plusieurs allaient au restaurant mais chinois, tu sais. Puis, pour une raison, ben, en fond, je l'ai dit que j'ignore, mais probablement c'est le fait que c'était un buffet. Ces chrétiens-là ne donnaient pas une scène en pourboire, parce qu'ils se disaient, bon, c'est un buffet, c'est nous qui allons servir, tout ça. Mais non, c'est un peu, là, la personne va ramasser tes assiettes, va nettoyer la table et tout ça. Il y a de l'ouvrage quand même, là. Et la personne, celle qui servait, donnait du bon service. Elle était là, faisait sa job, mais les chrétiens donnaient presque pas de pourboire, et bien plusieurs d'entre eux donnaient absolument rien. Mais elle, quand elle venait ramasser les assiettes, elle entendait les chrétiens parler. Ah, le Seigneur est bon et tout ça, puis ça parlait, puis elle savait que c'était des chrétiens, puis qu'ils allaient à telle église. Parce que ça se parlait, puis ça parlait fort, puis elle était contente de se voir, les frères, les sœurs, puis tout ça. Un jour, à cette année, puis elle était un peu marabout ce matin-là. Alors, il y a un chrétien qui a dit, « Mais qu'est-ce que t'as? Es-tu fâché? » Puis ça. Puis là, elle a ouvert son cœur. Elle a dit, « Vous autres, vous venez ici tous les dimanches, vous ne donnez pas une scène et tout ça. On est là, nous autres, on travaille, tu sais. On travaille, puis on s'occupe de tout ça. » Et là, les chrétiens disent, « Oh! » Hey, quel témoignage! Vois-tu, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu es chrétien tout le temps, là. C'est 24 heures sur 24, là. Fait que cours de manière à gagner et à remporter le prix. Tout le temps, là. Toujours. Quand tu es au restaurant, quand tu parles à la serveuse et tout ça, quand tu t'occupes de tes enfants, c'est ça, c'est une manière de... C'est pas une religion, cette affaire-là. C'est une relation. C'est une relation avec Dieu. Alors, ça doit avoir un impact dans tous les éléments de ma vie. Alors, pas les en train de dire. C'est pour ça que tu as besoin de garder le focus. Si tu veux gagner, tu as besoin de garder toujours, te concentrer sur le fait que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Alors, Paul, à travers le même chapitre, on se demande, à un moment donné, tout d'un coup, Paul arrive au chapitre 9, puis il commence une grosse section pour se défendre. Puis dans le fond, ce qu'il va dire dans sa section, ça commence au verset 1, puis on n'aura pas le temps de tout lire cette information-là, mais laissez-moi juste vous résumer. Il va se défendre comme apôtre, parce qu'il y a des gens dans l'Église qui pensent que Paul, c'est pas un apôtre, puis il ne mérite pas d'être apôtre, puis c'est pas un apôtre. Regardez bien l'affaire. Paul, à Corinthe, avait décidé de ne pas recevoir aucun don des gens qui étaient à l'aise à l'église de Corinthe. Il y avait, par choix, Paul recevait des dons ailleurs. D'ailleurs, on sait, quand on regarde la lettre aux Philippiens, par exemple, il remercie, il écrit une lettre pour remercier les Philippiens d'avoir envoyé un don. Donc, il prenait les soutiens financiers d'autres églises. Mais à Corinthe, il avait choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un système qu'on appelle de patronage. Ou, tu sais, comme en anglais, « You scratch my back, I'll scratch yours ». Il y avait tout cet élément-là je te donne quelque chose, en retour, tu me dois quelque chose. Et là, Paul ne voulait surtout pas commencer à se faire manipuler par des gens riches de l'église de Corinthe. D'ailleurs, on voit même que c'est un gros problème, rendu au 1 Corinthiens 11, il y a la table du Seigneur, le repas du Seigneur, puis on voit que les gens riches, à l'aise, n'attendent pas les démunis, les aident pas et tout ça, sont même effrontés, mangent là, comme des cow-boys, là, puis ça, ah ouais, c'est là, puis ça, ils ne veulent rien savoir, aucune délicatesse envers les démunis et tout ça. Donc, on voyait qu'il y avait vraiment un problème. Alors, Paul, par choix, décide de ne pas se faire soutenir par l'église de Corinthe. Savez-vous c'est quoi la conclusion des Corinthiens? C'est pas un apôtre, ça. Il se fait pas soutenir financièrement. Donc, c'est pas un apôtre. Regarde bien la logique. Regarde bien, je disais ça à ma femme, puis on est passé à rire, parce que ça arrive des fois. Ils sont là, puis ils disent, écoute, c'est pas un apôtre, il y a personne qui les soutient. Non, mais... Avez-vous vu la logique réinversée, là? Il dit, écoute, c'est pas un apôtre. Personne ne le reconnaît. Il est pas soutenu. Personne dans l'église le soutient. Donc, c'est parce que c'est pas un apôtre. Il mérite pas d'être un apôtre. C'est pas un vrai apôtre. Là, ils ont commencé à le mépriser et à le critiquer. Puis ça, d'ailleurs, il est tellement critiqué que depuis le premier chapitre d'un Corinthien, il est critiqué. Il est critiqué au chapitre 1, puis il se défend. Il passe les quatre premiers chapitres à se défendre. Puis encore là, il est rendu au chapitre 9, puis il est encore en train de se défendre. Donc là, les gens le critiquaient. Alors là, c'est ça que je dis à ma femme. Je dis, c'est-tu pas drôle? Garde Paul. Paul travaille parce qu'il veut se garder libre pour ne pas être obligé d'être redevable aux gens riches de l'Église. Les gens interprètent ça. Alors, regarde, il n'y a pas personne qui le reconnaisse dans l'Église. Il n'est pas soutenu. Ça fait que ce n'est pas un apôtre. Il ne mérite pas d'être soutenu. Regarde, des fois, tu fais le bien. Ça t'arrive-tu, ça? Des fois, tu fais le bien, puis on commence à soupçonner tes motifs. Tu fais quelque chose de bien. C'est bien. Paul, fais ça, là. Il y a un cœur pur. Fais bien. Là, les gens, la conclusion que les Corinthiens tirent, regarde, il n'y a personne. Personne qui veut le soutenir dans l'Église. C'est pas un apôtre, ce gars-là. Personne ne veut le soutenir. En tout cas, si ça t'est pas arrivé à date, laisse-moi te dire, ça va t'arriver. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Je suis très encourageant. Tu fais le bien, puis là, quelqu'un commence à soupçonner tes motifs et tout ça, puis finalement, ça tombe que ce que tu faisais de bien est perçu comme faisant le mal. C'est exactement ce qui se passe avec l'apôtre Paul. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Regarde le modèle de Paul. Paul est là, il va se défendre. Alors, il passe les deux versets, commence à se défendre, tout ça. Puis après ça, ce qu'il va faire, il va passer quelques versets, une bonne portion du chapitre, à prouver qu'il est en droit d'être soutenu financièrement comme apôtre par les Corinthiens. Donc, en d'autres mots, vous avez mal compris, les amis, là. Il dit, moi, là, je suis tout à fait en droit de recevoir des dons de votre Église. Alors, il corrige l'erreur qui circulait. Puis là, il va donner différents exemples. Il va dire, regarde. Puis là, il va donner trois exemples de la vie courante. Il va parler du soldat. Regarde le soldat. On le dépanne, on le soutient financièrement, tout ça. On le dédommage pour ce qu'il a service, puis tout ce qu'il donne. Il protège nos vies, en d'autres mots. Et on lui doit notre vie, il nous protège comme soldat. Il donne l'exemple du berger qui prend soin des troupeaux, puis il va se nourrir de ça. Il prend soin, il va parler du berger, il va parler du fermier. Trois exemples. Après ça, il donne deux arguments. Un dans l'Ancien Testament qui dit, regarde, il faut soutenir les ouvriers. Après ça, un autre dans le Nouveau Testament. Regarde, Jésus l'a dit, de soutenir les ouvriers. Celui qui travaille dans l'Évangile devrait être soutenu à cause de l'Évangile. Donc, cinq arguments pour prouver qu'il est en droit de recevoir des dons financiers. D'accord? Après ça, il dit, bon, maintenant, je vous ai dit que je suis un apôtre. J'ai deux critères pour être un apôtre. Premièrement, j'étais un témoin oculaire de Jésus-Christ. Ça, c'est un des critères pour être apôtre. Puis deuxièmement, hey, c'est moi qui ai fondé votre église, là. En d'autres mots, si je ne suis pas un apôtre puis j'ai fondé votre église, est-ce que vous êtes dans le Seigneur? C'est moi, j'ai été mandaté par le Seigneur, là, le message que je vous ai donné, là. Ça a un impact, comment vous me percevez, là. J'ai l'autorité de Dieu dans ce que j'ai fait. Alors, s'il y en a un qui devrait être soutenu et qui est en droit d'avoir des soutiens financiers, c'est moi qui ai commencé l'Église de Corinthe. Vous voyez la logique? Alors, un, garde, je suis en droit de recevoir ça. Il donne cinq arguments après, garde, je suis en droit de recevoir les dons. Mais ceci étant dit, je suis un apôtre, j'ai les critères d'apôtre, j'ai le droit de recevoir les dons financiers de votre part. Maintenant, je suis libre, j'ai choisi de ne pas être soutenu. Alors, Paul défend son apostolat, il dit après ça, il y a des droits, mais après ça, il va dire, et d'ailleurs, il arrive à la conclusion, verset 11, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? » Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Tire la conclusion, là. Mais maintenant, Paul fait exactement le contraire. J'ai le droit, mais je fais le contraire. Il dit, je viens de vous montrer que je suis en droit de recevoir un soutien de votre part, mais j'ai refusé de le faire. Paul a choisi de limiter ses droits et sa liberté pour la cause de l'Évangile. Et ce que Paul va dire, il dit, je suis libre, c'est-à-dire, je ne dépends pas de personne, de votre église, pour mon soutien financier. Il a fabriqué des tentes. Il est donc libre des gens, de la redevabilité envers les gens de Corinthe. Il n'y a pas de dette envers eux. Mais cette liberté-là a fait que lui a décidé de devenir l'esclave de tous. Regardez bien, il est libre, mais il se sert de cette liberté. Puis il dit, pour devenir l'esclave de tous. Voici ce qu'il dit au verset 19. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. En d'autres mots, mon but, dit Paul, n'est pas d'avoir la liberté, mais c'est de voir l'Évangile avancer, le royaume de Dieu progresser. Ça a été le message de Jésus qui s'est rendu le serviteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est le message de Paul. Et maintenant, il nous lance ce message-là dans les versets qui suivent. C'est un message qu'on voit dans Galates 5. J'ai justement une citation, je ne sais pas si je peux faire avancer. Galates 5, qui dit ceci, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, « T'aimeras ton prochain comme toi-même. » Vois-tu, soyez par amour les serviteurs les uns pour les autres. Et verset 23, Paul dit, « Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions, aux bénédictions de l'Évangile. » C'est-à-dire toutes les récompenses et les fruits, tout ce qui va découler, le fait de m'investir dans l'Évangile, dans l'avancement de l'Évangile. Paul nous dit donc de nous concentrer comme lui. Garde le focus, Paul. Il a fait des choix. Il avait la liberté de choisir de faire des choses ou pas le faire. Mais il a choisi de s'abstenir de certaines affaires pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, pour gagner ta course, tu as besoin de vouloir gagner, tu as besoin de garder le focus, la concentration, et tu as besoin de discipline. C'est sûr. Comme un athlète. Un athlète va soumettre un paquet de disciplines incroyables, tu vas te lever de bonne heure tôt le matin. Combien de fois on entend que des athlètes se lever à 5 heures du matin, ils allaient courir tant de kilomètres ou nager, tout ça, des kilomètres. Ils ne mènent pas la vie comme les autres. Ils font un paquet de... Ils ont une discipline du tonnerre. Moi, je me rappelle lorsque j'ai étudié à Boston, à Gordon-Conwell, il y avait un étudiant qui faisait le marathon de Boston régulièrement. Puis, tous les matins, on allait déjeuner, tous les étudiants ensemble, tout ça dans un restaurant de l'hôtel où on était, avant d'aller à l'école biblique. Et puis, tous les matins, il arrivait, lui-là, il venait de prendre sa douche, tout ça. Puis, il venait de faire son 10 kilomètres. Tous les matins, il faisait un 10 kilomètres. Puis, on le voyait manger, déjeuner, là. Il mangeait quoi? Un autre était là avec des céréales, puis tout ça. « Ouais, let's go, cornflakes, tout ça. » Et lui, c'était des graines. Il m'a déjà dit, normalement, tu penses-tu que je pourrais courir le marathon 42 kilomètres si je mangeais des gros steaks, des frites, tout le kit? Il me disait ça, il dit, ouais, je ne ferais pas de 42 kilomètres d'abord. Moi, j'aime les frites, les steaks, tout ça, là, mais ah, il avait une discipline du tonnerre. Puis après ça, lui, il allait faire toute sa journée. Là. Il venait de faire 10 kilomètres tous les matins, là, 6 jours sur 7, sauf le dimanche. Puis il avait une discipline incroyable. Eh bien, c'est ça. Pas être en train de dire, et il donne ça comme image, on s'abstient de toutes sortes de choses, on a la discipline. Et Paul va dire au verset 27, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » En d'autres mots, pour gagner la course, tu as besoin de vouloir gagner, tu as besoin de concentration, de discipline et dernièrement, faire des sacrifices. Ça va demander des sacrifices si tu arrives là. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Vous savez, c'est quoi la plus grande tentation dans ma vie, moi? Je vais vous confesser quelque chose ce matin. Vous écoutez, là? Dites-le pas à ma femme, là, mais je vais vous avouer c'est quoi ma plus grande tentation dans ma vie. Vous savez, c'est quoi? C'est moi. Mon plus gros problème dans ma vie, c'est moi. C'est moi qui limite la croissance que je pourrais avoir dans le Seigneur. C'est moi qui ralentis tout ce que Dieu voudrait faire dans ma vie. Il m'a emmené là où il aimerait bien que je devienne, que je fasse et que je devienne. Je suis mon pire ennemi. C'est moi le problème. Et je ne veux pas entendre amen, là. Hein? Pas d'accord. On est d'accord, Norman. Non, mais c'est vrai. On a besoin, honnêtement, là, Devant le miroir, et dire, Seigneur, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas cette église-là, c'est pas eux autres. Il est là. Oui, les gens autour ne rendront peut-être pas ta vie facile. Mais les épreuves, nous disent les Écritures, sont même là pour nous faire grandir. Je dois surmonter le moi si je veux vraiment remporter le prix. Je dois me débarrasser de Normand afin de devenir le Normand que le Seigneur veut que je devienne. As-tu? Et là, je vais pouvoir gagner la course. Rappelez-vous ce qu'il dit. Je veux que tu gagnes le prix. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Pense-y, là. Le Seigneur est en train de parler à travers la plume de Paul, mais il est en train de dire, je veux que tu gagnes la course. Réalises-tu que le Seigneur est le plus grand cheerleader au ciel de ta victoire? Il est au ciel, là, puis il te regarde, puis il dit, « Je veux que tu gagnes. Je veux que tu amasses des trésors au ciel. J'ai hâte de te les donner. » Il est le chef cheerleader, le Seigneur, de ta course. Il veut te voir gagner. Alors Paul, il dit, écoute, le Seigneur t'a donné des dons et des ressources. Sers-toi de tous les talents et les dons que tu as reçus pour sa gloire et faire avancer son œuvre. En d'autres mots, cours pour gagner. Amen. Quelle action de grâce de prendre cette décision ce matin. Seigneur, avec ton aide et la puissance du Saint-Esprit, moi, je pars d'ici ce matin résolu, décidé de courir pour gagner. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ta grâce et ta miséricorde, ton pardon. Et ce matin, par la foi, nous voulons obéir avec joie à ce message que Paul nous livre, inspiré de ton esprit. Nous voulons partir et courir pour gagner. Nous ne voulons pas juste mener notre vie chrétienne pour ne pas perdre, mais nous voulons gagner, gagner pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.